Histoire vivante, en nouvelle diffusion, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La vie est née quelque part, et ce qui nous intéresse, c'est comment.
Cette semaine, à la recherche de quelques sources.
Ça fait quand même 15 ans que je ne me tue à dire « il faut s'occuper des chimpanzés pour reconstituer les origines ».
De la vie à l'homme, la question des origines.
Cette origine-là n'est peut-être pas toute la question que se pose l'homme.
L'origine, dans la Bible, semble faire l'objet d'une certaine connaissance et est désignée d'un nom générique, Elohim, Dieu.
Mon Dieu, ainsi l'homme descendrait du singe, pourvu que cela ne soit pas vrai. Mais si cela l'était, prions pour que cela ne se sache pas.
Oui, il existe ces moments de grâce en radio ou ailleurs dans la vie, au cours desquels, sans qu'on ait pu le prévoir, la tension est soudain poussée à son maximum. L'écoute, telle qu'on se met à absorber des paroles, ou plutôt un flux dont on perçoit le sens sans toujours tout comprendre, mais en acceptant ses petits travers. Et en acceptant avec patience et désir d'aller avec le guide au bout du voyage. C'est ce qui se passera aujourd'hui, avec ce dernier entretien autour du thème de l'origine. Aujourd'hui, le sujet est abordé sous l'angle qui sans doute nous touchera le plus profondément, l'origine de chaque être humain. Est-il possible de changer de regard sur ce qu'on appelle un bébé ? Sur ce qu'on appelle une grossesse, un accouchement, une naissance. Est-il possible de reprendre en compte ces fondamentaux et d'accepter de remettre tout à zéro? Est-il possible de faire table rase? Est-il possible de faire une révolution d'une telle nature? Les propos que vous entendrez aujourd'hui sont, autant prévenir, difficiles souvent à saisir. Le contexte l'a voulu ainsi, ils sont tenus dans le cadre d'une conférence, l'intervenant lit un texte qu'il a écrit. Un texte dense, serré, particulièrement riche. Au terme de son propos, il y a cependant une sortie que nous vous demandons surtout de ne pas rater. Elle offre une ouverture pour l'esprit, une redéfinition, un nouvel angle d'une rareté précieuse. Un peu comme si de nouveaux territoires inconnus, de nouvelles terra incognita s'offraient à notre esprit et aussi à nos cœurs. Voici donc le terme d'une semaine consacrée aux origines. Un remerciement encore à France Culture pour ses enregistrements. Aujourd'hui, il sera question d'origine avec, comme objet interrogé, nous. On ne naît pas mère, on le devient. C'est un long parcours qui retrouve un trésor laissé de côté depuis l'enfance, constitué pendant l'enfance. La mère est un secret d'enfance. Cette citation extraite de « Devenir mère » est signée Jean-Marie Delassus, psychiatre, chef du service de matermologie de Saint-Cyr-l'École, depuis 1987, ce service soigne les difficultés maternelles précoces par la prise en charge des mères et des bébés, en y incluant les pères. Pour Jean-Marie Delassus, la naissance n'est pas l'accouchement. C'est par facilité de pensée que nous croyons à une trame naturelle conduisant de manière linéaire du développement de l'embryon et du fœtus pour aboutir, au-delà de la mise au monde de l'enfant, à sa naissance. Une facilité de pensée qui débouche sur une inexactitude. La naissance nous invite, au contraire, à découvrir une dimension d'existence inouïe. L'image du nouveau-né criant, impuissant, masque en fait une souveraineté, celle de la vie en son état encore originel. Et à travers ce nouveau-né, il est peut-être désormais possible d'entrevoir en fait ce que nous sommes essentiellement. Jean-Marie Delassus.
Peut-être n'a-t-on pas encore, et c'est ce que je propose de faire pour commencer, abordé de manière très simple, et je dirais par le biais du dictionnaire, les différentes dimensions que comporte le mot d'origine, ce qui, en les examinant, nous permettra d'arriver à cette notion que le mot d'origine, dont on a dit qu'il était la question que se pose l'homme, cette origine-là n'est peut-être pas toute la question que se pose l'homme. Quand vous prenez le Robert, vous avez deux sens généraux. Vous avez le sens généalogique. Vous avez l'époque. Vous avez la provenance, le point de départ. Alors c'est l'Afrique, c'est point de l'Europe ou autre chose. Bon. Et puis vous avez cette notion qui n'est pas négligeable du point à partir duquel on mesure les coordonnées, comme le méridien d'origine. Quel est notre méridien d'origine? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse dire homme ou pas homme? N'est-ce pas? Bien. Dans un deuxième sens, un sous-sens, disons, le Robert distingue l'origine comme commencement, première apparition ou manifestation, avec comme synonyme qu'il évoque les créations, la naissance, le début. Ensuite, il évoque la genèse, les commencements, les formes anciennes d'une réalité qui se modifie, les débuts. Vous voyez, les nuances, ça flotte, les nuances sont assez proches. Et puis, en septième position, vous avez la cause, c'est-à-dire ce qui explique l'apparition d'un fait nouveau, c'est-à-dire le redressement de l'axe vertébral avec la modification du trou occipital libérant un espace pour l'augmentation de la masse cérébrale. Alors voilà ce que propose le Robert. On comprend, mais ça crée une espèce de fading, si vous voulez, une espèce de halo. Alors je vous propose un regroupement sémantique des dimensions du Robert. Les questions 1, 2, 3, 4 relèvent de la provenance. Où et d'où viendrait l'homme? La deuxième question qui se pose et qui s'est toujours posée, en particulier aux paléanthropologues, c'est la datation. Mais alors il y a un sens. C'est la question de la différenciation. Alors, une fois posé ça, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on peut se dire? Provenance, datation, bon, on voit à peu près ce que ça veut dire. Mais la différenciation arrive comme un problème fondamental. Le concept d'origine en soi, pris comme ça globalement, est insuffisant. On remarque que l'origine est une notion complexe où la caractérisation des dimensions de la question renvoient les unes aux autres. Il y a un jeu de billard entre les différentes données de la question d'origine. Où faut-il chercher l'origine? Dans les étoiles ou sur la Terre? Dans les molécules ou dans les interactions? Etc., etc. En tout cas, ce qu'on sait, il faut les chercher dans un temps et un état antérieur. Origine, ça, on ne peut pas passer à côté de cette notion, c'est de l'antérieur. Mais tel quel, le concept d'origine me paraît en soi insuffisant, puisqu'il reste à déterminer à quoi il s'applique. Donc notre question, me semble-t-il, préalable, c'est de situer l'origine, ou du moins de quel côté nous allons nous tourner pour essayer d'en approcher la notion. Et les notions de provenance et de datation, je le disais tout de suite, sont indicatives. Elles ne nous posent pas de gros problèmes, sauf quant à y répondre, mais disons, dans leur signification, ça ne nous pose pas de gros problèmes. Elles concernent le lieu et le temps de l'origine. La notion de différenciation, comme je le soulignais, est plus essentielle parce qu'elle porte sur ce qui est en jeu pour qu'il y ait une origine. Que ce soit une origine pour une chose, et dans le cas présent pour un être. Les modalités de la différenciation doivent alors permettre de préciser la nature de l'être qui en résulte. Pour cela, il faut pouvoir situer l'origine, les questions de provenance et de datation, revenant à localiser éventuellement le processus différenciateur, sa fonction et ses effets. Donc nous sommes obligés de procéder à un élargissement du cadre épistémologique. Nous proposons d'élargir ce cadre à la prise en compte d'un autre type de données, celle de l'épigenèse prénatale. La vie prénatale est généralement considérée, malheureusement, comme simplement une période de développement à partir de dispositions génétiques spécifiques. Vous vous souvenez ce que dit Proust quand il parle, j'ai oublié le nom, de ces petites fleurs de papier japonaises ou chinoises, je ne sais plus, on les met dans la tasse de thé, hop, ça se développe, n'est-ce pas ? Bon, alors, que ce soit le créateur ou le gène ou les dispositions protéines, on les met dans un milieu convenable, utérin de préférence, bien que maintenant l'utérus artificiel est en train de frapper à la porte et peut-être vous l'entendez, hein, on les met dans un milieu convenable et puis comme la petite fleur de Proust, de papier, ça se développe et ça vous donne un homme, une femme, si tant est qu'encore il puisse y avoir après des différences de genre. Alors, la vie utérine réduite à une période de développement, j'y reviendrai tout à l'heure, ça me semble un abord extrêmement réducteur. On peut concevoir aussi donc une dotation génétique en zone corticale non programmée qui reste ouverte à l'expérience épigénétique. Et nous aboutissons, pour terminer cette ouverture méthodologique, à la notion d'origine-structure.
De quel côté allons-nous nous tourner pour essayer d'approcher la notion d'origine ? S'interroge Jean-Marie Delassus. Posée ainsi, la question peut déconcerter, pas si l'on rappelle que cette question d'origine posée par l'humain pose à l'humain la moindre des cohérences, à savoir de se poser avant tout la question pour lui-même. Car la question posée ainsi va devenir d'un coup moins évidente à évaluer, moins évidente à situer, comme si ce qui avait jusque-là prévalu comme réel s'échappait, s'enfuyait. Il y a un cadre différenciateur, celui qui sépare l'homme de l'animal. Jean-Marie Delassus parle d'une dotation génétique propre précisément à l'humain en une zone encore non programmée. De quelle nature serait cette dotation génétique ? Est-elle porte entr'ouverte à un autre monde intime et oublié de nous ?
Je fais un état des lieux du consensus actuel sur le fœtus. Eh bien, tout le monde dit, et je l'ai dit tout à l'heure, on le réduit à un être en développement. Je n'y reviens pas. Réceptif, alors ça, tout le monde jure par ça. Réceptif aux communications avec l'extérieur, je ne dis pas non. Mais dire seulement qu'il est réceptif aux communications avec l'extérieur, sans tenir compte, comme on va le faire bientôt, qu'il est dans un milieu qui n'a pas besoin de l'extérieur pour être riche en communication, c'est quand même faire une impasse, mais nous y reviendrons. Il est exposé, dit-on, au traumatisme intra-utérin relevant de la physiologie maternelle ou d'accidents extérieurs. Bien entendu, si la maman se tombe dans l'escalier et se fait une rupture de je sais trop quoi, c'est évident que le fœtus peut en souffrir. Bien sûr qu'il est exposé à des traumatismes, mais le fait qu'il soit exposé potentiellement à des traumatismes ne signifie pas du tout que ces traumatismes vont avoir une action nécessairement traumatique. Il ne faut pas non plus exagérer, extrapoler à partir de là. Et alors on dit que pendant la vie prénatale se préfigurerait l'état physique et psychologique individuel. C'est une notion qui est de plus en plus acceptée sans beaucoup d'examen, que beaucoup de mes amis partagent. Je n'en suis pas si sûr. En tout cas, faisant état du consensus actuel sur le fœtus, il importe de la noter. Alors, on dit que c'est un être en développement, nous prenons la question. Ce développement est considéré comme inachevé. L'homme est un être inachevé. C'est une théorie très ancienne, cette théorie de l'homme inachevé. Le premier peut-être à l'avoir assez clairement, même très clairement explicité tout au long de son œuvre. Freud dit que l'homme est inachevé, que la détresse du nouveau-né est énorme. Freud dit que nous sommes inachevés à la naissance et que c'est l'origine, vous trouvez ça dans Inhibition, symptômes et angoisse, 1926, si je ne me trompe, hein, à l'origine de la faiblesse du moi, des névroses du moi, de la dépendance du moi, etc. Il y a un certain nombre de bases qui font que eh bien, nous ne sommes pas des êtres qui avons un moi à la hauteur de ce qu'il devrait être à cause de cet inachèvement natal. Il s'est trouvé qu'en 1923 ou 26, je ne sais jamais la date, je confonds toujours, un anatomiste hollandais, Alexandre Bölke-Bewelka, a remis au jour une théorie très, très peu connue, qui est la théorie de la néoténie. La néoténie consiste à pouvoir se reproduire avant l'acquisition totale des caractères morphologiques d'une espèce. Et il prend pour exemple l'axolote du Mexique, une sorte de salamandre, hein, qui se reproduit comme ça, et il dit « nous, on est pareil ». Alors ça rappelle un peu ce que Freud avait dit en disant « mon grand problème, c'est le temps de latence qu'il y a entre l'apparition de la sexualité infantile, puis sa mise en latence et la mise en route de la sexualité adulte ». Bon, passons. Alors, sur ces théories, on n'a jamais eu d'examen scientifique pour savoir s'il y avait réellement une prématuration. Et vous avez dans Merleau-Ponty un texte dans ses cours au Collège de France absolument pertinent pour comprendre ce qui s'est passé. Il dit « il y a en effet prématuration puisque l'on constate des caractères de prématurité chez l'être humain à la naissance ».
La néoténie, le pouvoir de se reproduire avant l'acquisition totale des caractères morphologiques d'une espèce. Quelques exemples. Louis Bölke et plus récemment Stephen Jay Gould notent les caractéristiques communes de l'homme et des jeunes primates. La boîte crânienne non soudée à la naissance, l'absence de pilosité du bébé ou la faiblesse de l'appareil musculaire sont des marques de néoténie. Ailleurs, on distingue une tendance à la conservation de caractères juvéniles lors de la domestication. Exemple, les chiens remuent la queue et aboient comme le font les louveteaux, mais conservent ce comportement toute leur vie alors que les loups l'abandonnent à l'âge adulte. Conrad Lorenz, dans « Psychologie et phylogénèse », évoque la néoténie humaine. Il la relie à sa curiosité et son ouverture au monde, et sa déspécialisation, elles en font un être curieux non spécialisé. Jean-Marie Delassus.
Donc, le statut épistémologique de la prématuration est celui d'un syllogisme. J'observe des signes de prématuration, donc il y a une prématuration. Ce qui fait qu'aucun auteur contemporain n'omettra de rappeler la théorie de la prématuration, mais aucun ne consacrera ne serait-ce que deux lignes pour en donner les raisons de cette prématuration, ou du moins pour en démontrer la réalité. Et là, nous avons un trou dans la science, n'est-ce pas ? Je dis tout de suite que c'est faux. Les études que j'ai pu faire à Salpêtrière, au laboratoire de Scherrer, ont montré qu'il n'y avait aucun signe de prématuration chez l'homme, que c'est un des animaux qui, à la naissance, est « animaux » entre guillemets, le plus mature, sauf au niveau du cervelet. Parlons maintenant de ce monde dans lequel vit le fœtus. Il y a une spécificité de la vie fœtale. Et pour pouvoir l'aborder, il faut encore balayer un peu devant la porte. La vie du fœtus n'est pas ce qu'elle paraît quand on l'observe de l'extérieur. Ni ce que l'on croit qu'elle peut être en fonction des apparences, notamment échographiques. Dieu sait si l'échographie est importante et a une véritable mutation dans beaucoup de domaines de la périnatalité. Mais elle ne doit pas induire que ce que l'on voit à l'échographie en termes de pratique médicale somatique, c'est-à-dire y savoir s'il y a telle ou telle malformation ou autre, on ne peut pas en déduire, en induire plutôt, que le fœtus nous apparaît nécessairement dans sa vie. C'est pas parce qu'il bouge un bras, pas parce que tout d'un coup il suce son pouce, n'est-ce pas, in utero, que cela signifie la totalité de sa vie prénatale, de ce qui s'y passe. On n'a pas pour cela appréhendé la vie prénatale dans son ampleur. Donc il faut se méfier, comme il faut se méfier d'ailleurs de cette phrase bien connue sur la transparence de la grossesse, qui me semble être un écho de l'échographie, hein, puisqu'elle donne à penser que les femmes enceintes sont transparentes. L'expérience clinique que nous avons depuis 20 ans nous montre qu'elles sont extrêmement opaques, et je propose à la place le terme d'expression psychique, souvent majoré pendant la grossesse, mais pour le clinicien, la transparence, croyez-moi, elle n'est pas évidente. Alors, le mode fœtal, le fœtus est dans un autre monde, lequel est prépondérant. Je vais le développer après. Il ignore notre monde. Pour le moment, prenez ça avec indulgence, ça va se développer. Il est absorbé dans son monde. Son identité n'est pas celle d'un sujet, mais d'un être qui fait tout un avec son milieu, c'est-à-dire un être unaire. Qu'est-ce que ça veut dire un être unaire ? C'est un mot qu'on trouve dans certains écrits philosophiques, je l'ai retenu au passage, parce qu'il permet de, de cerner la question de non-dualité fondamentale qu'il y a entre l'être, là et le milieu, j'y reviendrai. En tout cas, il vit dans un monde à part. Les limites de l'observation, balayons encore, hein, il y en a deux, ce que j'appelle l'externalisme, c'est-à-dire la prise en compte exclusive ou majoritaire des phénomènes appréhendés de l'extérieur, même quand on pénètre dans le milieu intérieur utérin. On n'a pas le droit de se donner des bases purement externalistes. On est quand même dans quelque chose qui vit dans un milieu avec lequel il est un être unaire. Ça demande une méthodologie particulière. Et alors on donne dans ce cas-là une importance exagérée au réflexe d'ajustement ou réaction du fœtus à l'état humoral et utérin relevant des émotions ou réactions maternelles. Il n'y est pas insensible, la question c'est de savoir dans quelle mesure ça vient pénétrer et faire de l'épigénèse. C'est la vraie question. L'autre limite de l'interprétation, c'est l'adultomorphisme, alors qui sévit. Hein. On voit le fœtus d'après ce que nous sommes, nous le pensons d'après ce que nous sommes. Je souhaiterais qu'on inverse la tendance et que nous nous pensions d'après ce que nous avons été en tant que fœtus, dont certains grands penseurs ont peut-être été les interprètes. On a une tendance spontanée à considérer le fœtus à partir de ce que nous sommes. Le fœtus ne parle pas, mais on fait parler ses réactions motrices et ses mouvements. Toute interprétation ou extrapolation à partir de notre vécu postnatal est ici sujette à caution.